Vous écoutez Ainsi soit-elle.
CKIA FM, vous écoutez Ainsi soit-elle. Et cette semaine, on a un programme assez chargé. D'abord, on va dire quelques mots sur la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes du 6 décembre. Ensuite, on va avoir une chronique avec Marie sur les privilèges cisgenre. On va parler un petit peu de la mort de l'auteur Lucky Bersianic. Et ensuite, on va faire un petit calendrier militant, quelques petites annonces, et on va peut-être vous parler un peu des sorties qu'on a faites cette semaine. Donc, on commence tout de suite en musique. Vous êtes avec toute l'équipe d'Ainsi soit-elle. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Marie?
On va écouter Maluma, une chanson qui s'appelle « El Mumna ».
عاون العبريدني ما يقدر حد يحوش ولا يتسافك ويقلي ولا عاد يهوش
وصلها المنان اللحن وجعلها تهوش
عاون العبريدني ما يقدر حد يحوش ولا يتسافك ويقلي ولا عاد يهوش
CKIA FM 88,3, c'est Ainsi soit-elle, votre magazine féministe et libertaire favori. Aujourd'hui, on est le 5 décembre, demain c'est le 6 décembre, c'est la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Depuis le 25 novembre, on est dans les 16 journées d'activisme contre la violence envers les femmes. Alors, je me suis dit, magazine féministe, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. De quoi on va parler? Donc, je suis allée voir sur Sisyphe.org. J'ai lu des statistiques sur les féminicides, sur les excisions, sur la violence conjugale, les viols, l'inceste, le harcèlement sexuel au travail, le harcèlement sexuel à l'école. J'étais un peu découragée. Fait que là, je me suis dit, je vais aller voir des statistiques plus officielles. Parce que là, les statistiques qu'il y avait là-dessus, c'était beaucoup international, c'est difficile à comparer, tout ça. Je vais aller voir sur le site officiel de Conditions féminines Canada, voir qu'est-ce que notre cher gouvernement Harper a à dire sur cette campagne nationale d'action contre la violence faite aux femmes. Le site web était quand même assez bien fait. On apprenait les différentes sortes de violences physiques, émotionnelles, psychologiques, sexuelles, financières, la négligence. On apprenait aussi que certaines femmes sont plus vulnérables que d'autres, comme les femmes autochtones, les femmes âgées. J'ai rien vu, par contre, sur les femmes vivant avec des handicaps. Mais j'étais un peu choquée par la terminologie qui était utilisée, puis par les enquêtes qui étaient utilisées par le gouvernement pour parler de la violence. Je trouvais que il y avait comme un danger de symétrisation de la violence, notamment la violence dans les relations amoureuses. Fait que là, j'étais pas très satisfaite par ce que j'ai trouvé là. Fait que j'ai googlé campagne, journée nationale d'action, tout ça, des mots-clés. Je suis tombée sur la campagne du ruban blanc, hein, internationalement. Et la campagne du ruban blanc, c'est beaucoup une campagne pour les hommes et les femmes, les choses qu'on peut faire pour contrer la violence. Fait que là, j'ai lu la liste, les 10 choses que les hommes peuvent faire pour prévenir la violence envers les femmes. J'avais pas nécessairement envie de vous parler de ça. Donc, j'ai continué mes recherches. J'étais allée voir sur le site du Conseil du statut de la femme. J'ai rien trouvé. Rien au niveau québécois. Par contre, je suis allée lire dans la Gazette des femmes s'il y avait des articles. J'ai juste trouvé un article sur la cyberintimidation, qui est quand même une forme de violence. On en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. Puis, c'est une forme de l'intimidation, même sur Internet, c'est une forme de violence où les filles sont beaucoup des victimes, mais où il y a aussi beaucoup de filles qui sont des agresseurs. Donc, je trouvais ça peut-être un peu trop délicat pour en parler. Je voulais justement pas retomber dans la symétrisation de la violence. Fait que là, je décide de me concentrer un peu plus sur le 6 décembre. Je suis allée relire le nom des 14 femmes assassinées par Marc Lépine le 6 décembre 1989 à Polytechnique. J'ai relu un peu la biographie de Marc Lépine. J'ai relu sa lettre de suicide, entre guillemets, qui était clairement antiféministe. Puis là, je me suis mis à pleurer. J'étais tannée, je voulais pas pousser plus loin ma réflexion. Mais je suis quand même allée sur YouTube à la fin pour voir différentes publicités de différents gouvernements français, québécois, canadiens contre la violence conjugale de plusieurs pays. Je suis tombée aussi sur des chansons qui dénonçaient la violence conjugale et tout ça, mais j'ai vraiment fondu en larmes puis j'ai fermé mon ordinateur. Je me suis dit, bon, je sais pas de quoi je vais leur parler ce soir, je sais pas de qu'est-ce qui est le plus important, mais je sais que j'ai vraiment hâte de me retrouver avec mon équipe de féministes ce soir à l'émission. Yeah. Donc, c'était ça mon petit topo sur la violence. Donc, on peut peut-être passer tout de suite en musique puis continuer avec le reste de l'émission sur une note plus positive.
Merci, Evelyne, pour ta chronique. Puis, on va en musique avec Carole Cole, je pense. Si je me trompe pas, je reviendrai après la musique si c'est pas ça. La chanson s'appelle « Ethiopia ».
Say
toujours à l'écoute d'Insiscoitel, votre magazine féministe et libertaire favori. On poursuit avec une chronique de Marie qui va nous parler du privilège cissexuel. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais qu'est-ce que c'est que ça exactement? C'est ce que je me suis dit aussi en découvrant... je suis tombée sur un texte sur infokiosque.net, là, qui est vraiment une bonne ressource pour avoir plein de textes, plein de zines sur plein de sujets différents. Puis je vais souvent regarder les nouveautés de ce qu'il y a sur la sexualité, queer, tout ça. Puis, donc là, je tombe sur ce texte-là, qui est une traduction française, en fait, d'un chapitre d'un bouquin écrit par Julia Serrano. Donc le livre en entier, il s'appelle... attendez que je l'ai. Il s'appelle... Weeping Girl, a Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity, avec mon super accent. Et donc le chapitre qui est traduit, donc c'est traduit par le privilège cissexuel. Donc juste pour dresser un bref entrée en matière de ce thème-là, en fait la cissexualité c'est un terme qui a été construit donc en opposition à la transsexualité, et puis c'est en fait pour expliquer le fait d'être né dans un corps qui ne correspond pas à notre identité sexuelle. Donc le fait d'être né Donc c'est le fait de sentir femme et d'être né dans un corps de femme. Ce qui, du point de vue de Julia Serrano, n'est pas une évidence du tout. Donc, et la transsexualité devient donc le fait d'être né dans un corps, mais auquel on ne s'identifie pas. Donc on s'identifie homme ou autre dans un corps de femme, par exemple. Puis, donc c'est ça. Et du coup, avec le terme cissexualité, vient le cissexisme. Donc c'est le fait de dire que cette évidence, enfin cette chose-là, ce constat-là devient une évidence. C'est le fait de dire que, bon, ben, c'est évident que tout le monde est né dans un corps et que son identité sexuelle correspond à ce corps-là, alors que c'est pas du tout évident. Et donc, il y a plein de choses à réfléchir là-dessus, je pense. Puis c'est aussi de dire, le cissexisme, c'est aussi de dire que cette évidence-là ou cette correspondance-là, elle est supérieure à toutes les autres. Donc c'est ça. Julia Serrano, c'est une biologiste entre autres, mais c'est une écrivaine, une trans-activiste, et elle fait du spoken word aussi. Et donc c'est une femme trans, elle se définit comme femme trans, et c'est vraiment intéressant sa perspective, là, si vous avez l'occasion d'aller dans ce texte, le privilège cissexuel, je vous y invite. En fait, dans ce texte-là, elle fait une analyse politique féministe de la situation des femmes trans, donc dans la société occidentale en général et dans les milieux féministes et LGBT. Donc c'est en fait remettre en question, puis déconstruire tous les préjugés qu'on peut avoir sur la transsexualité, sur les femmes trans, avec des choses comme c'est pas des vraies femmes, c'est... Donc il y a vraiment plein, elle fait vraiment plein d'analyses de tous les préjugés qu'on peut avoir. Et donc c'est une remise en cause radicale des comportements misogynes qu'on peut avoir et des perceptions de féminité qu'on peut avoir à l'égard des femmes trans. Son titre, donc le privilège cissexuel, c'est l'idée que bah, y a des personnes donc, qui estiment que cette correspondance-là entre le corps et l'identité sexuelle doit être normale. Et c'est donc toutes les stratégies que ces personnes-là vont développer pour maintenir ce privilège-là. Donc pour justifier et maintenir les privilèges. Donc il faut, pour être dominant, il faut qu'il y ait des personnes qu'on domine. Donc c'est dans cette perspective-là qu'elle a développé ça. Puis... Donc ces attributs cissexuels dont elle parle, en fait, ils sont pris pour acquis. Donc souvent, on fait référence justement à la naissance, au fait que une femme est femme par naissance, par nature. Bon, après, on réfère à ça aussi. Puis elle déconstruit ça en disant que pour elle a dû s'identifier et elle a dû se définir elle-même à partir de ces concepts-là qui sont cisgenré en fait, mais qu'elle, ça ne la convenait pas du tout de se définir par rapport à ça. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a plusieurs idées qui sont intéressantes à retenir dans ce dont elle parle. En fait, ça, c'est une traduction française, comme je vous le rappelle, puis dans la préface de la traduction, Donc les traductrices disent qu'elles ont vraiment fait tout un travail justement sur les concepts et sur les mots employés, parce que c'est quand même des nouveaux concepts, des nouveaux mots, et donc pour essayer de trouver une traduction la plus proche que possible des termes anglais. Et donc il y a un mot par exemple qui est le genrement, donc de l'anglais gendering, en montrant que finalement le genrement, c'est le processus qui consiste à faire la distinction entre les hommes et les femmes. Et donc c'est quelque chose, c'est un procédé actif, c'est pas quelque chose de passif, puis un constat passif, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, où tous les jours on assigne à des gens une identité sexuelle. Quand on croise quelqu'un, je veux dire, c'est rare là, que on croise quelqu'un, tout de suite on pense homme-femme, on pense en termes comme ça. Puis si la personne, on la considère ambiguë, on n'arrive pas à définir son identité sexuelle, ben là ça nous pose des questions, puis on est comme pas sécure dans cette position-là et tout. Donc elle parle vraiment d'assignation compulsive. Moi j'aime bien ce mot-là, là. C'est vraiment pour montrer qu'on passe notre temps à ça finalement. Bon, on passe notre temps à plein de choses aussi, mais à ça entre autres. Et que finalement, cette assignation-là compulsive, elle n'est pas basée sur le sexe de la personne. C'est très rare qu'on voit la personne toute nue. C'est combien de sexes de personnes on a vu dans notre vie, là ? Il n'y a pas tant que ça. Donc, on se base toujours sur des caractères sexuels. Ben, ça dépend des personnes, peut-être, en tout cas. mais on se base toujours sur les caractères sexuels secondaires, finalement. Donc, c'est ça, l'apparence. Donc là vient la féminité, la masculinité, à quoi on attribue les cheveux longs, par exemple, les yeux, je sais pas, les yeux en amande, ça va être censément être plus féminin, je sais pas. Donc voilà. Et puis, à partir de là, à partir de ce constat-là, le fait qu'on attribue des genres, puis des identités sexuelles à des personnes en fonction de caractéristiques secondaire, comment ça se fait qu'on considère d'autre part que la femme, elle est femme par naissance, elle est femme d'avoir un sexe à sa naissance, quoi. C'est comme paradoxal, puisque finalement on n'arrive jamais jusque à voir son sexe là. Donc elle soulève des choses que je trouve vraiment intéressantes comme ça. Puis le concept de genrement, justement, c'est pour montrer qu'il y a des personnes qui sont mal genrées. Donc à qui on attribue des mauvais genres, finalement, puisque eux, c'est pas comme ça qu'ils vont s'identifier. Donc voilà. Il y a un autre concept qu'elle développe, c'est l'évidence cisexuelle. Donc en anglais, c'est asexual assumption. C'est cette hypothèse que la relation entre ces sexes physiques, c'est ce qu'elle appelle les sexes subconscients, ça s'applique à toutes les personnes. Donc si ça s'applique à nous, ça s'applique à tout le monde. C'est un peu ça. Donc de là, on considère de là que c'est acquis. Et puis elle déconstruit ça en disant que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça. J'essaie de rendre un texte qui est vraiment, vraiment riche. J'ai simplifié, c'est pas toujours évident. Voilà. Il y a aussi un autre concept qu'elle aborde, c'est la légitimité cisexuelle. C'est le fait qu'on se sente légitime nous-mêmes d'être cisexuel. Donc, moi, par exemple, je suis née avec un sexe de femme, je me considère femme, donc ma position est légitime. Et toute autre position l'est moins. Donc, je veux dire, si j'avais cette vision-là, si j'étais cisexiste, j'adopterais cette vision-là. Donc, elle analyse justement le fait qu'on lui a souvent posé la question « Ah ouais, t'étais un homme avant, on lui a souvent remis en question sa féminité et son statut de femme, comme si c'était pas finalement une vraie femme. C'est ça, on en parlait par rapport à une sortie qu'on a faite hier soir où cette expression-là de vraie femme est arrivée. Et donc elle serait, elle, moins femme parce que trans. Donc, en tout cas, c'est vraiment intéressant, je trouve, tout ça. Voilà, il y a beaucoup d'autres idées dans ce texte. Je pense que je vais pas passer à travers toutes les idées parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être que je reviendrai une autre fois sur ce texte. Mais d'ici là, je vous conseille d'aller le lire. Vous pourrez le trouver donc sur infokiosque.net. Julia Serrano, et le chapitre s'appelle « Le privilège cisexuel ». Voilà.
Mais merci beaucoup, Marie. Peut-être que tu peux nous présenter déjà la prochaine chanson.
Ah, ben la prochaine chanson, Tiphaine, la prochaine chanson.
Alors, je crois que la prochaine, ça sera Mamani Keita et Marc Minelli avec
oui,
la chanson
Laïdou.
Laïdou, voilà.
Oui. Bonne écoute.
Je crois que ce sera ça.
Thank you.
Sur les ondes de CKIA FM, toujours à l'écoute d'Ainsi Squat-t-elle, votre magazine féministe et libertaire favori. Le Québec a perdu une grande auteure féministe cette fin de semaine, Lucky Bercianic. Hélène, tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, en fait, Lucky Bercianic, moi, c'est une auteure qui a vraiment qui m'a accompagnée depuis mes tout débuts de découverte littéraire et aussi du féminisme. J'ai découvert Lucky Bercianic, en fait, au Cégep, par l'œuvre Le pique-nique sur l'Acropole, cahier d'Ancile aux fortes et tailles douces. Et c'est vraiment une œuvre qui m'a marquée. Peut-être commencer par le début pour vous la présenter. Donc, j'ai appris la nouvelle, en fait, avec beaucoup de consternation. Hier, c'est par le fil de presse de Sisyphe qui annonçait, donc, le titre était « Mon cœur est de plus en plus féministe ». Donc, c'est une citation de Lucky Bercianic, 1930-2011. C'est un article qui a été écrit par Hélène Audet et Micheline Carrier, qui sont pas mal deux des animatrices de ce site-là. Donc, l'auteur bien connu des milieux littéraires et féministes, Lucky Bercianic, s'est éteinte à l'âge de 81 ans le 3 décembre 2011, donc dans un hôpital à Montréal. Puis c'est clair qu'en perdant Lucky Bercianic, son vrai nom, c'est... Ben, son vrai nom. Pas son vrai nom, mais disons son nom de baptême que ses parents lui avaient donné, c'était Lucile Durand. Puis c'était vraiment une grande écrivaine, une poète, une romancière, mais aussi une philosophe au sens de l'humour redoutable et une indépendantiste convaincue, mais une indépendantiste de gauche. Parce qu'aujourd'hui, dire ça en 2011, ça veut... C'est pas nécessairement... Ça va pas nécessairement ensemble, mais pour elle, oui. Pour son époque. Une des citations qu'on connaît d'elle, qu'elle avait dit entre autres en entrevue en 91 à la revue Voix Image, c'est qu'elle disait « J'ai su très tôt que je serais traversée par l'écriture, que ma raison de vivre serait là. » Puis en tout cas, on en est bien contente parce que Lucky Bercianic, dans son œuvre, elle remet beaucoup de choses en question, puis c'est pour ça qu'on dit qu'elle est philosophe, entre autres. La séparation entre le corps et l'esprit, c'est vraiment quelque chose qu'elle a ramené dans ses œuvres. Puis une féministe redoutable parce que dans tous les romans qu'elle a écrits ou les poèmes, la question du patriarcat, la question de l'émancipation des femmes est vraiment centrale. Pour plusieurs personnes, pas seulement moi, c'est vraiment une personne forte dans le féminisme radical. Peut-être parler un petit peu d'elle, de sa vie. Elle a obtenu une maîtrise en lettres françaises de l'Université de Montréal et un doctorat en lettres à la Sorbonne. Elle a commencé l'écriture par des contes pour enfants qui ont été, dans le fond, dont 45 ont été diffusés à l'émission La boîte aux merveilles à Radio-Canada. Si vous pouvez mettre la main là-dessus maintenant avec Internet, Google, etc., puis les bibliothèques, il y a moyen, c'est vraiment des petites merveilles. Elle a collaboré aussi beaucoup à la radio, à la télévision, au cinéma. C'est vraiment en 76 qu'elle a fait son entrée dans le monde littéraire avec son livre « Le Guélion ». C'est vraiment considéré comme le premier grand ouvrage féministe publié au Québec. Ça a vraiment fait plus qu'une petite secousse, ça a vraiment fait un grand scandale dans les milieux littéraires quand c'est arrivé. Scandale pour les personnes antiféministes, puis révélation, puis vraiment, enfin, on avait une femme qui prenait la parole, puis de manière poétique également. C'est important de parler de la langue quand on parle de Lucky Bercianic parce que elle a vraiment pas seulement exploré au niveau des thèmes, mais au niveau de la forme, donc de la langue, comment déconstruire cette langue-là qu'elle considérait justement comme sexiste. Puis c'est une des premières aussi à avoir placé sur la place publique, dans le fond, le débat sur la langue. Donc, comment on nomme les choses. Puis pour elle, évidemment, ben c'est tributaire du système patriarcal. Puis c'est pour ça qu'il fallait faire exploser cette langue-là, la déconstruire ou en tout cas, puis également mettre de l'avant tous les mécanismes sexistes qu'on pouvait retrouver en arrière. Donc, c'est pour ça que, pour elle, c'était important de sortir de la tradition, pas seulement par les thèmes abordés, je vais vous en parler un peu plus tard, mais aussi dans la manière de s'exprimer. Puis ça, c'était vraiment, aujourd'hui, dire ça, on dirait que ça tombe comme sur le sens, mais à l'époque, c'était très avant-gardiste de mettre ça de l'avant. Donc, il y a eu Le Guélion, il y a eu Le pique-nique sur l'Acropole, dont je vais vous lire un extrait tout à l'heure. Aussi, j'ai découvert ça tout à l'heure, puis j'ai trouvé ça drôle. Elle a écrit pour plusieurs chanteurs et chanteuses, dont la chanson que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Chanson pour durer toujours », pour laquelle d'ailleurs elle a gagné un prix, qui est interprété par Richard Séguin. Puis quand j'étais allée faire une recherche sur YouTube tantôt, j'ai vu encore le mensonge qui continue à se qu'on doit déconstruire ici aujourd'hui à Insiscouatelle. C'est notre objectif parce qu'en fait, il est écrit texte et paroles de Richard Séguin. Ben, sachez désormais qu'en fait, le texte était de Louki Bersianic et c'est une magnifique chanson d'amour. Donc, c'est un petit peu ça, ça fait un petit peu le tour pour Louki Bersianic. Peut-être dire sur une note plus personnelle que moi, je l'avais rencontré il y a à peu près 5 ans. Puis à cette époque-là, c'est quand il y avait les éditions de Sisyphe qui venaient de rééditer ses œuvres. Puis c'était vraiment une femme, c'est vraiment mon point de vue personnel. Quand je l'ai rencontrée, j'étais complètement sous le choc, intimidée, gênée et un peu pompette. Donc, j'ai parlé avec elle, puis c'était vraiment une femme très généreuse qui m'a tout de suite dit « T'as envie d'écrire? Écris! Il n'y a pas assez de femmes qui écrivent. Toutes les femmes devraient prendre la plume. » Puis elle était vraiment... bon, à l'époque, elle était donc fin 70 ans. Donc, ben, pas fin 70 ans, mais peut-être 75, 76 ans. Mais déjà encore vraiment une force vive. Puis on lui a expliqué qu'on était la gang d'un Insiscouatel qui était là pour le lancement. Puis elle regardait, elle était là, des jeunes féministes. Puis elle était vraiment contente. Elle disait, faut vraiment qu'il y en ait qui continuent à porter le flambeau parce que la lutte est vraiment pas terminée. Puis même si... Puis elle disait, comme, même si c'est difficile... puis même si vous essuyez des critiques, on entend vraiment un discours en ce moment que le féminisme... est allée trop loin ou que ça a plus sa raison d'être, elle était là au contraire, puis elle a vraiment elle a vraiment une force incroyable, puis c'est pas pour rien si elle a inspiré tant de gens, puis je pense qu'elle va continuer à inspirer les gens à travers ses œuvres, à travers ses poèmes, très certainement. Puis il faisait remarquer sur le site de Sisyphe que c'était comme un peu c'était assez spécial en tout cas qu'elle soit décédée en fin de semaine, parce que ce dont on vous a parlé au début de l'émission, donc le drame de Polytechnique, c'est quelque chose qui l'a beaucoup habité, quelque chose qu'elle a beaucoup dénoncé puis qui l'a fait beaucoup écrire, parce qu'elle avait vraiment un amour inconsidérable pour tous les êtres humains, mais certainement aussi spécifiquement pour les femmes. Puis c'était un drame qui l'avait, comme pour nous toutes. Là, je pense que tout le monde est un peu les larmes dans la gorge en pensant à ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on sera demain devant la Bibliothèque Gabriel-Leroy de 5h pour manifester, pour se souvenir des femmes qui ont été tuées à Polytechnique. On vous en reparle à la fin de l'émission. On va continuer en musique.
On s'en va écouter Nova Lima. La chanson s'appelle « Liberta ».
Thank you.
sur les ondes de Sequoia FM. Vous êtes toujours à l'écoute d'Ainsi Squatelle. Et pour compléter cette émouvante chronique sur la mort de Lucky Bersianic, Hélène, tu vas partager un extrait avec nous.
Oui, je voulais vous parler, ben c'est ça, de ce livre de Lucky Bersianic, Le pique-nique sur l'Acropole. Puis c'est intéressant parce que ça va faire un lien pour vous montrer comment Lucky Bersianic était hot, puis elle l'est encore. Ça, tout à l'heure, je vais vous parler d'un débat qui se passe en ce moment sur la place des femmes dans la philosophie. Puis justement, le titre de son livre, ça réfère directement au banquet de Platon, pendant que les hommes ont un banquet faste, qui sont servis par d'autres personnes. Ben les femmes, c'est ça c'est ça un peu le thème du livre de Lucky Bersianic. En tout cas, le pitch, c'est que les femmes se sont réunies pour faire un pique-nique ensemble, discuter à l'Acropole. Donc, pour vous mettre en contexte, parce que je vais juste vous lire un petit extrait, je vous lis à l'espèce de résumé du livre pour justement vous mettre en contexte. Donc, des femmes contemporaines se réunissent la nuit sur le site archaïque de l'Acropole en face du portique des Caryatides pour s'entretenir de leur sexualité. Ainsi, jadis, dans la cité antique, des hommes s'étaient rassemblés autour d'un banquet pour parler de l'amour. Qu'y a-t-il de changé? L'amour, la sexualité ou bien l'absence de Socrate et la présence de Xanthippe sur les lieux des agapes? Ou bien une prise de parole émergente d'un lieu de jouissance jusqu'alors nommé continent noir? Mais en Afrique noire, on continue de castrer les filles, mais sur nos blancs continents, on continue de leur faire subir la même clitoridectomie psychologique. Agapé est le mot grec qui désigne l'amour. On peut voir au musée d'Athènes le masque en or d'Agamemnon, dont le nom devrait signifier l'amour et pourtant qui signifie le non. Ce masque funèbre, aux yeux de Lucky Bersianic, est le symbole même du patriarcat. Ce qui règne et ce qui légifère encore en ce siècle, c'est ce mort qui a tué sa fille. Donc, dans le roman, comme vous le voyez, on va avoir différentes femmes qui vont s'entretenir sur la question de l'amour, sur la question de la sexualité. Puis moi, à l'époque, en 2000, début des années 2000, jeune féministe d'origine haïtienne, donc qui essayait un petit peu de chercher, de se trouver dans le discours féministe au Québec, mais que j'essayais de voir comment impliquer une certaine perspective raciale. C'était vraiment les balbutiements. Je connaissais absolument rien au Black Feminism, rien à Belle Hooke ou Audre Lorde. Mais déjà, par Lucky Bersianic, puis c'est pour ça qu'elle continue de m'accompagner, c'est qu'il y avait un chapitre, justement, sur la question de l'excision, donc au moins où on traitait d'une thématique propre aux femmes noires, donc en Afrique. Et ça s'appelle, tous les chapitres s'appellent par exemple, lui, celui que je vais vous lire, c'est le dit d'Adizetu aux yeux luisants. Pardon, aux yeux luisants, mais tous les chapitres, c'est comme ça. Donc, ça va comme suit. C'est deux chattes qui vont parler. Donc, voilà. En fait, oui, OK. Ah bon, je comprends, disais-tu, il me semblait bien aussi des fois quand je disais des mensonges, c'était comme si la vérité me sortait de la bouche. Donc, les deux chattes vont s'entretenir sur la question du clitoris, du vagin, et on en arrive, mais par le biais de la métaphore, donc, des deux chattes. Donc, c'est la plus vieille chatte qui s'adresse justement à, disais-tu, la plus petite, qui raconte justement ce que la chatte plus âgée lui a raconté. Est-ce que tout le monde me suit bien? C'est clair, deux chattes se parlent, la plus vieille donne des conseils à la plus petite. Donc, c'est la plus petite qui parle et qui dit... La Adzetu m'a dit en confidence de me méfier des lames de rasoir, de les éviter à tout prix, de m'en éloigner vivement dès que j'en voyais une. Elle a dit que personnellement, elle connaissait une lame de rasoir dans la brousse, toute seule, par terre, sans rasoir, sans homme pour se raser avec, tous les jours au soleil et à la pluie, avec le pipi des animaux sur elle, et qu'un jour, cette lame s'était levée dans une grande main noire et qu'elle avait coupé le sexe de toutes les petites chattes qui jouaient autour de cette grande main et le sang pissait partout et on entendait des miaulements à n'en plus finir. La chatte de la cuisine, elle avait vu ça et elle avait tellement eu peur qu'elle n'était plus jamais retournée dans la brousse. Elle a dit que si je toussais, c'est parce que j'avais mon sexe de femme dans la gorge et que c'était de peur qu'il était monté jusque-là et qu'il était temps que je remette à sa place mon sexe de femme et d'arrêter d'avoir peur tout en faisant bien attention aux lames de rasoir. Elle a dit aussi que si je touchais souvent mon clitoris, il n'y avait pas de mal à ça et même que c'était plutôt bien, mais qu'il fallait que je me cache à cause des lames de rasoir toujours en train de rôder auprès des petites filles. Elle a dit qu'il fallait absolument que je fasse oublier au monde que j'avais un sexe de femme, sinon le monde se jetterait dessus pour me l'enlever. Elle a dit de faire semblant, de faire comme si on me l'avait coupé. Elle m'a dit de me méfier si on étend une natte derrière la hutte sur le sol poussiéreux et de refuser coûte que coûte de m'y allonger et d'ouvrir les yeux parce que ce serait pour bientôt. Elle a dit de ne pas laisser les femmes s'asseoir sur mon estomac et me tenir les jambes écartées et me bâillonner la bouche, le nez, les oreilles pour m'empêcher de crier pendant que la femme du forgeron m'enlèverait mon sexe de femme avec une lame de rasoir. Elle m'a dit d'apprendre le Wendo et de toutes les envoyer voltiger et ensuite de prendre mes jambes à mon cou et de ne plus jamais retourner dans la brousse. Elle m'a dit, cette chatte savante aux yeux perçants, qu'on allait bientôt fermer mon sexe de femme tout à fait, qu'on allait me couper les lèvres et qu'ensuite, on allait les coudre avec des épines d'acacia. Elle a dit qu'on me laisserait un tout petit trou pour faire pipi et que ce petit trou resterait ouvert avec un morceau de bambou et qu'on allait me ligoter les jambes pendant la moitié d'un mois pour que la cicatrice se fasse à l'endroit où j'avais un sexe de femme. Elle a dit que le jour de mon mariage, mon mari allait ouvrir cet endroit d'un coup de lame de rasoir. Ah! Quand j'ai entendu cela, disais-tu aux yeux luisants, j'ai eu plein de larmes de rasoir dans les yeux. La chatte de la cuisine m'a supplié de fuir, de ne pas perdre une minute et de bien faire attention dans ma fuite, de ne pas me laisser attraper et embarquer dans un hôpital où il y a plein de ciseaux et de bistouris très coupants qui continuent à trancher les sexes des femmes qui sont à leur portée. Elle a dit qu'elle était mon amie et qu'elle avait très peur pour moi. Elle a dit qu'il valait mieux encore ne pas pouvoir faire des enfants comme elle qui a été opérée plutôt que de ne plus avoir son clitoris. Parce que les enfants, elle a dit que ça fait plaisir, mais ça fait aussi souffrir, tandis que le clitoris, ça fait toujours plaisir. Et moi, j'ai tellement peur. Je fais comme si je n'avais pas mon sexe de femme. Ma main a oublié tout à fait mon sexe de femme et je ne montrerai jamais comme a fallu jusqu'à la dernière marche du paradis. Doucement, dans un souffle coupé, Aphélie dit « Adisais-tu mon cœur, tu ne dois plus jamais avoir peur. Personne ne te fera de mal et tu monteras au paradis. C'est Aphélie qui te le dit. » Pique-nique sur l'Acropole, un texte que je lis et relis encore et encore.
Merci beaucoup, Hélène, pour cette lecture.
Merci, Luki, merci, Yannick.
On va écouter Maluma, donc la même chanteuse que tantôt. La chanson s'appelle Tchara.
عنده ضحكة ترفع البلا أها منها ضحكة وشكلة قطعنا عنها متماشي كلا شفتو ضحكة صيد القبلة تجلب وتقيت فول وهلة وحدة قال صيد القبلة عنده ضحكة ترفع البلا منها ضحكة وشكلة قطعنا عنها متمشي كلا Yeah.
On approche déjà de la fin de l'émission Ainsi soit-elle de cette semaine. Mais avant de partir avec notre calendrier, on veut vous entretenir un petit peu sur la place des femmes en philosophie, Hélène.
Oui, l'absence, l'invisibilité des femmes en philosophie. Parce que de dire qu'il n'y a pas de femmes qui s'intéressent à la philosophie, c'est complètement faux. Maintenant, quelle place on leur fait dans les revues, dans les livres, c'est ce dont je veux vous parler. En fait, elle a beaucoup circulé sur Facebook. C'est Guillaume Beaulac et Marianne Dicros qui ont envoyé un courriel aux éditions Libère concernant la sortie prochaine de la revue Philosophie et compagnie. Donc, c'est une nouvelle revue qui va être lancée au mois de janvier. Et la section thématique du premier numéro, janvier 2012, traite du pouvoir avec des textes de Yves Gingras, Jean-François Lessard, Jean-François Malherbe, Michel Métayé, Christian Nadeau, Laurence Olivier, Gilles Paquette. Ils feront également le portrait de quelques intellectuels comme Jacques Dufresne, Michel Freytag, Charles Taylor, Jacques Brault. Si à la lecture de ce bref résumé, vous ne comprenez pas c'est quoi le problème, ben vous êtes exactement comme les personnes responsables de la revue. Vous allez comprendre dans quelques secondes pourquoi. Mais en tout cas, ça l'a choqué, comme ça nous choque tout autour de la table en ce moment, Guillaume Beaulac et Marianne Dicros qui ont décidé d'envoyer un courriel donc à la revue Philosophie et compagnie pour, dans le fond, leur souligner une évidence, où sont les femmes? Il n'y a pas de femmes qui écrivent dans ce numéro-là et il n'y a pas de portrait de femmes intellectuelles non plus. On s'entend que c'est quand même assez grossier, là. C'est assez gros. D'habitude, il y en a au moins une pour le politically correct. Donc, dans leur courriel, je vous lis quand même un extrait qui est intéressant. Guillaume Beaulac et Marianne Dicros disent « Devons-nous comprendre de ce message que les femmes du Québec n'ont rien à dire ou à écrire sur la question du pouvoir, qu'aucune femme n'est digne d'un portrait, que dans un numéro inaugural d'une nouvelle revue de philosophie au Québec, aucune femme n'a un article annoncé dans le premier communiqué de presse? » Donc, continue en disant « La situation des femmes en philosophie est dramatique au Québec, puis commence à avoir de plus en plus d'intellectuels des gars et des femmes qui s'unissent présentement pour dénoncer cette situation. » À titre d'exemple, Marianne Ducroche, justement, qui, elle, travaille au Cégep Saint-Jérôme et à l'UPOP Montréal, a organisé une conférence parlant de la situation pour la Journée mondiale de la philosophie. Il y a aussi un blog Feminist Philosopher qui a mis de l'avant une campagne qui s'appelle Gendered Conference, où il y a un extrait très intéressant où ils disent « La campagne Gendered Conference vise à sensibiliser à la présence importante de conférences où il n'y a que des hommes invités, All Male Conference », et aussi dans les volumes et les écoles d'été, puis aux problèmes que ça cause. Ce qu'ils disent, c'est « Nous n'affirmons rien du tout sur les causes derrière ce phénomène. Nous focalisons sur l'existence et les effets de ces conférences. » Puis c'est intéressant quand même parce qu'ils disent « Bon, on veut pas blâmer les organisateurs et les organisatrices, c'est pas ça le point ici, quoi qu'on pourrait quand même en discuter. » Mais ce qu'ils disent, c'est qu'il faut attirer l'attention sur ce phénomène-là qui est systématique et systémique. Les problèmes, dans le fond, que ça a pas causé ces conférences-là où s'il y a juste des hommes qui sont invités, puis c'est un peu ce que perpétue la revue Philosophie et compagnie, c'est que dans le fond, ça envoie le message, ça perpétue le stéréotype de la philosophie comme étant une affaire d'hommes, ce que dénonçait justement Bercianic en 70, on s'entend qu'on est en 2011. Puis, ils disent, ça a pour effet de contribuer au biais implicite contre les femmes en philosophie, ce qui semble fortement influencer l'évaluation des contributions des femmes, même par les personnes se dédiant à l'égalité entre les genres. Puis, ils disent, justement, pour régler ce problème-là, ben une des premières choses, ça serait justement, dans les conférences, puis aussi dans les volumes, de faire plus de place aux femmes. Puis là, vous voyez, puis il termine, c'est très intéressant, en disant « Tous ces projets sont d'une importance capitale. » Là, en fait, ils font référence aux blogs féministes, aux conférences, bon, qui vont porter sur l'invisibilité des femmes, parce qu'en fait, les femmes sont pas absentes, c'est qu'elles réussissent pas à se faire publier ou inviter sur ces tables-là. Donc, ils disent « Il est ironique qu'une revue ayant comme thème le pouvoir ne laisse le pouvoir de parler de ce sujet qu'entre les mains de ceux qui en possèdent déjà le plus dans la discipline. » Donc, vraiment intéressant, coup de gueule, je trouvais ça parfait, leur courriel. Et ils ont reçu aujourd'hui même, c'est tout frais, tout chaud, grâce à la magie d'Internet, la réponse de Giovanni Calabresi des éditions Libère, puis c'est vraiment, son courriel est très court, mais c'est vraiment un énoncé de toutes les réponses qu'on reçoit quand on dit, ben, il n'y a pas assez de femmes, où sont les femmes, la publication, donc... Lui, dans sa réponse, ce n'est pas sur la foi d'un seul numéro qu'on juge un périodique, donc il n'y en a pas besoin. Il dit, je vous encourage à faire preuve de patience et à nous soumettre vos textes aussi, hein. C'est souvent un argument qu'on entend, ben, vous avez juste à la prendre la place, vous avez juste à nous proposer des textes. Donc, aucune remise en question de la part des personnes responsables de la revue. Puis en plus, il termine en disant que les éditions Libère et Philosophie Compagnie, ce sont pas des publications idéologiquement orientées. Donc, ils essayent de publier des bons textes et non pas les textes. Hein? Donc, eux, ils vont pas se complaire dans le politically correct. C'est dans le fond, on publiera pas des textes de femmes qui sont pas bons. Puis, il termine vraiment en disant « Juste désolé de votre réaction qui est trop vive et j'espère qu'avec le temps, vous allez pouvoir réviser votre position. » J'ai lu ça puis je me suis dit « On en est encore rendu là. » On pourrait en parler longtemps, mais c'est quand même assez incroyable. Une revue de philosophie, premier numéro, en 2011 au Québec. Aucun portrait de femme, d'intellectuelle femme, puis aucune contribution de femme. C'est renversant. Je sais pas vos réactions, les filles, mais moi, je suis bouche bée.
On est bouche bée.
Mais j'ajouterais quand même que ça mériterait peut-être qu'on ait une nouvelle chronique « Où sont les femmes? » Parce que ça arrive trop souvent, ce genre de situation-là, pas seulement en philo, malheureusement.
Excellent.
Est-ce qu'on veut faire tout de suite le calendrier ou écouter une dernière petite chanson?
Petit calendrier militant. Et je vous parlerai aussi de deux calendriers papier. Donc, ça va aller assez rondement pour le calendrier parce que j'ai sélectionné seulement deux événements cette semaine. Il y en a plein d'autres, mais pour ça, vous pourrez faire vos recherches vous-même. D'abord, on en a parlé la semaine dernière, mais ça reste vraiment pertinent de relancer l'invitation. Demain, à partir de 17h, dans le cadre des journées d'action contre la violence faite aux femmes, il y a un rendez-vous devant la bibliothèque Gabriel-Leroy, juste ici, en face des studios de CKIA. Vous pourrez les voir par la fenêtre si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Donc, à partir de 17h, ce sera une marche qui est mixte et qui se dirigera vers le parvis de l'église Saint-Roch. Donc, c'est pas très loin, c'est accessible pour toutes. Et puis, je l'espère, on invite tout le monde à porter une cible fabriquée en carton ou en tissu avec au centre le symbole de la femme, donc un cercle avec une petite croix en dessous. si vous voyez de quoi je parle. Puis on est aussi invité à porter un foulard ou un brassard blanc pour rappeler le ruban blanc. Et puis, donc, c'est une action commémorative de la violence faite aux femmes et aussi une action pour dénoncer la destruction du registre des armes à feu dont vous avez certainement entendu parler. Donc, c'est ça. On espère vous y voir. Nous, on y sera. Et puis, donc, c'est ça, là. C'est vraiment une action à ne pas manquer demain. Et puis ensuite, le 7 décembre, donc mercredi, à partir de 19h à la Maison de la Coopération, c'est l'Assemblée générale de CKIA, votre radio communautaire préférée. Donc, il y aura plein de sujets plus palpitants les uns que les autres qui seront traités. Je vous laisse la surprise pour mercredi, mais on espère vous y voir. Et puis, pour rester dans le thème des calendriers, rapidement, comme on vous en avait parlé la semaine dernière, c'était hier la soirée karaoké de financement du groupe GLBT de Québec. On a eu un contingent féministe remarqué lors de cette soirée qui avait lieu au Drag. C'était quand même assez mémorable, je dirais, avec des grandes performances. Et puis, on a eu l'occasion de voir le calendrier que ce même groupe, GLBT Québec, vend comme moyen de financement. Donc, vous pouvez vous le procurer. Je crois qu'il est disponible en ligne, sinon directement par le groupe. Et c'est un calendrier de filles 2011. Et les filles sont habillées, c'est quand même à souligner, parce qu'on connaît la mode des calendriers du moment.
Et un calendrier anti-calendrier.
Voilà. Et finalement, un autre calendrier à surveiller, c'est le calendrier Certain Days Freedom for Political Prisoners. Et puis, c'est un super beau calendrier avec de l'art original à chaque page. Et puis, c'est un projet avec des militants et des militantes de Montréal et de Toronto, là, de Concordia, et trois prisonniers politiques de l'État de New York. C'est un projet donc qui vise à ramasser des fonds pour la libération de prisonniers politiques. Donc, deux calendriers à potentiellement vous procurer si ça vous tente, si vous avez un cadeau à Noël, à faire à Noël ou à un autre moment d'ici 2012.
Vu qu'on n'a pas de calendrier du Fonds de solidarité cette année.
Voilà, on vous propose quelques remplacements et on termine en musique avec Anaïs, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est une chanson que j'ai trouvée assez drôle. Elle fait un rap collectif à elle toute seule. Vous allez entendre ça. Puis on vous laisse sur les ondes de CKIA FM avec l'émission Puissance Maximale. Salut les squatteuses!
Bye bye!
Salut!
Combat la degré du vent, bon gré malgré, on traite assisté. Si t'es pas content, tu peux.